Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mag. Cette semaine, comment vont les salariés des entreprises qui sont totalement à l'arrêt? Comment continuer de construire une stratégie quand on a zéro visibilité? C'est les questions qu'on va poser à la DRH de Fitness Park, groupe de salles de sport fermé depuis octobre 2020. Et puis on va parler des étudiants, pas d'emploi saisonnier, dit d'appoint dans la restauration ou les commerces cette année. Une application tente de leur vendre des jobs dans d'autres secteurs. On sera avec le fondateur de Student Pop. Et enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais le télétravail va peut-être vous faire gagner de l'argent sur votre déclaration d'impôt. On va en parler avec François-Xavier Combe, il est fondateur d'EasyBlue. Happy Boulot le Mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot le Mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Géraldine Achin. Bonjour, vous êtes DRH de Fitness Park, des salles de sport, un groupe lancé en 2009, 230 clubs de sport en France, avec des succursales. Vous avez 300 000 m² de surface, 700 000 adhérents. Ça m'a étonné qu'il y ait autant de gens qui fassent du sport, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est quand même une très très belle, plus qu'une PME, une belle ETI. Vous êtes fermé, évidemment, depuis le mois d'octobre pour en tout cas les salles de sport, pas pour vos activités sièges. Dans quel état sont globalement vos salariés dans votre groupe?
Alors nous sommes fermés effectivement depuis le 26 septembre 2020, puisque au-delà du confinement, nos équipes ont été à l'arrêt depuis les premières annonces de fermeture par arrêté préfectoral. Et donc nos équipes aujourd'hui sont aux aguets, sont mobilisées pour reprendre dès que nous aurons davantage de visibilité sur la date de réouverture, bien entendu.
Et vous avez donc des salariés qui n'ont pas bossé depuis l'automne. Comment vous faites? Vous leur dites, on y croit, tous les jours, on envoie un petit mail, parce qu'ils sont au chômage partiel,
évidemment,
ceux-là.
Évidemment, donc ça a suscité de notre part, de la direction générale, du comité exécutif, de l'ensemble des managers, des équipes, bien qu'elles soient au chômage partiel, d'être mobilisées sur le terrain, d'être mobilisées, de garder le contact et le lien avec les équipes. D'ailleurs, c'est pour cela, notamment, que nous avons donc décidé aussi d'un point de vue collectif de maintenir, on parlait des entretiens annuels d'évaluation, de maintenir cette campagne d'entretien de performance et de développement individuel qui est très axée sur le capital humain entre février et mars, période pendant laquelle on a décidé donc de
même pour ceux qui étaient en chômage partiel,
exactement, de sortir l'ensemble de nos équipes, celles qui étaient en club et celles qui étaient en siège, du chômage partiel, pour maintenir justement, au-delà de l'évaluation de la performance 2020, puisque de toute manière aussi, l'activité a été très fortement impactée sur l'année 2020, en plus de celle de l'année 2021. Donc de sortir les équipes du chômage partiel.
Ça a été combien de temps?
On les a sortis une journée quasi entière, à la fois pour la préparation de ces entretiens, parce que c'est pas tout de les tenir, mais on a demandé à ce que les gens les préparent en amont, et ensuite pour la tenue de ces entretiens, soit par visioconférence ou soit en présentiel avec les mesures de distanciation bien sûr qui s'imposent.
Mais comme vous savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir réouvrir, vous leur donnez quoi comme objectif?
Alors il y a beaucoup d'objectifs, c'est-à-dire qu'on a organisé énormément d'actions de communication en interne, par des webinaires quotidiens, par du maintien du lien avec les managers sur le mode de télétravail généralisé aussi qui s'est imposé à nous, qui ont été très descendants, c'est-à-dire que l'on a fait effectivement, redescendre auprès de nos populations jusqu'aux commerciaux, coachs, sportifs, donc qui sont aujourd'hui salariés de nos clubs de sport. Donc des webinaires qui ont été forcément très appréciés. On a pu en fait en mesurer l'impact, notamment lors de ces entretiens annuels d'évaluation.
Et au travers, alors, ils vous ont dit quoi? Ils étaient en forme?
Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit lors de ces entretiens? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit aussi lors des retours d'expérience collaborateurs qu'on a sollicités lors des entretiens? Avec, on va dire, des questionnaires ou des baromètres de santé qui permettaient de mesurer leur qualité de vie et comment ils avaient vécu la mise en place du télétravail, la mise en place des fermetures aussi de manière assez brutale pendant ces 8 mois écoulés. Et bien globalement, ce qui en ressort, c'est qu'on a des équipes qui sont engagées, qui sont mobilisées, qui sont prêtes pour la réouverture, qui évidemment, pour certains, ont connu des situations d'isolement sur lesquelles on essaye de travailler, d'apporter des axes d'amélioration, notamment en termes de communication. En termes aussi de liens de proximité qu'on réengage aussi vis-à-vis de nos managers, nos directeurs régionaux qui sont très impliqués aussi.
Parce que c'est double peine quand même chez vous, parce que vous avez des salariés qui sont passionnés de sport, j'imagine, sinon ils n'y vont pas, donc ils ne peuvent pas faire de sport, ils ne peuvent pas travailler.
C'est double peine, c'est-à-dire que nos responsables de club, nos commerciaux, nos coachs vivent du sport. Ils ont bien d'autres compétences évidemment que celles-là. Mais ce sont des passionnés par le sport. Donc, comme vous dites, c'est vraiment la double peine. C'est ne pas pouvoir exercer la pratique du sport et donc de ce qui les passionne au quotidien. Et en plus, d'avoir effectivement cette double peine de la fermeture qui dure bientôt, encore une fois, maintenant depuis près d'un an.
Vous n'en avez pas qui vous ont dit, moi j'arrête, enfin, je ne vois pas de bout du tunnel, je change de métier, je me reconvertis.
C'est ça qui est, je dirais, très... très valorisant et qui nous donne tous cette envie de collectif de redémarrer, c'est que non, on a aujourd'hui très peu de turnover et très peu de gens qui nous ont quittés dans cette période finalement.
Donc on s'accroche à la réouverture.
On s'accroche à la réouverture parce qu'on donne nos projets, on a aussi beaucoup innové, beaucoup été innovant dans les projets que l'on a continué à mener pendant cette activité. On en a aussi profité pour travailler sur nos organisations, pour revoir nos modèles d'organisation, travailler aussi sur nos programmes de formation à la sortie de l'activité partielle pour accompagner davantage nos managers en cette sortie de crise, je dirais. Donc ça a été vraiment, vraiment très positif et les retours vraiment factuels, quantitatifs, sont évidemment très, très bons au regard de cette
fermeture. On aurait pu se dire que vous arrêtiez totalement tous les recrutements en externe, que ça soit du stagiaire ou à n'importe quel poste. Vous faites partie du dispositif Un Jeune, Une Solution.
Tout à fait.
Donc, vous allez recruter encore des alternants.
Bien sûr. On a initié donc une campagne, alors un petit peu en décalé, que l'on a débuté en septembre avant les fermetures. On a recruté plus de 50 alternants, hein, à la fois au siège et à la fois pour les fonctions siège et à la fois pour les clubs. Donc dans cette période, on va dire, avant fermeture, et on continue effectivement, bien que l'on n'ait pas encore de perspective et de visibilité sur la réouverture, à continuer à initier notre nouvelle campagne d'alternance sur laquelle on va bientôt communiquer là dans les jours à venir, sur 2021-2022, pour avoir un objectif justement de recrutement d'alternants sur...
Pourquoi vous mettez à fond vous-même sur l'alternance? Parce que pourquoi c'est plus facile après d'intégrer les salariés, les futurs salariés.
Exactement, ce sont nos viviers de demain, ce sont nos potentiels, nos jeunes talents de demain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très important de se mettre dans une perspective de rebond, de réouverture sur un plan à long terme. Et aujourd'hui, stopper l'intégralité de notre recrutement serait vraiment une erreur. Donc on s'est continué à s'inscrire dans cette dynamique, je pense, que l'on a vraiment collectivement relayé auprès de nos équipes et qui se ressent aujourd'hui pleinement dans leur état d'esprit. Et ça, c'est clé.
Vos clubs, ils ne sont pas en franchise, vous appartiennent en propre.
Alors, pour certains, on a 250 clubs, vous les expliquez au niveau du réseau, 80 clubs au niveau du succursale, et le reste des clubs donc sont en licenciés de marque. Donc,
ça veut dire que... Pour vous cherchez quoi? Vous cherchez potentiellement des gens qui ont envie d'être entrepreneurs? Cherchez des profils à la fois sport, à la fois...
Votre question, elle est très, très pertinente de ce point de vue-là. On cherche des gens qui... Nos valeurs, ce sont celles du dépassement et du se dépasser, se surpasser. Ce sont celles des valeurs qui sont intrinsèquement liées à la société et qui sont vraiment profondément ancrées dans l'ADN du groupe, vraiment. Et donc, pour répondre à votre question précisément, oui, on cherche des gens qui sont... engagés, des commerciaux, alors évidemment, qui n'ont pas forcément d'ailleurs cette passion du sport, mais qui ont un attrait pour le sport. Et puis, forcément, au niveau de nos responsables de club, des gens qui sont dans une dynamique quand même de gestion de centre de profit, parce que c'est une activité quand même commerciale, avec effectivement en plus cette appétence et la passion pour le sport, parce que c'est...
Et c'est dur à trouver
clé.
Comme profil ?
Non, on arrive aujourd'hui alors à recruter, je dirais, plutôt facilement. On a quand même une moyenne d'âge de population qui est assez jeune, qui, encore une fois, a envie de faire partie de cette aventure collective, hein, puisqu'on a quand même connu une croissance exponentielle au cours de ces dernières années.
Vous êtes fait arrêter net, quoi.
Alors, arrêter, je dirais oui. En stand-by. C'est pas un arrêt, c'est juste, je dirais, on considère dans notre capacité de résilience à considérer cette période comme un arrêt, oui, que l'on subit, mais qui va nous servir ensuite collectivement pour l'avenir. Et on va en ressortir, je pense, d'autant plus fort.
Est-ce que vous, qui travaillez pour une boîte de sport, vous êtes à fond dans le coaching, du coup?
Moi, vraiment, pour le coup, à fond dans le coaching, à fond dans le monitoring. Je pense que c'est une des clés de succès d'un DRH pour aujourd'hui et pour demain et pour toutes nos équipes. Le coaching, ça fait partie d'une des fonctions prégnantes et intégrantes de la mission d'un DRH aujourd'hui et pour demain, dans l'accompagnement de l'entreprise, de sa croissance et de sa transformation. Donc oui, à fond pour le coaching, à fond pour le mentoring.
Pour tous vos salariés, pour...
Exactement. Et pour le tutoring aussi, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Sur le tutorat, notamment au niveau des personnes qui sont amenées donc à manager nos alternants, mais de surcroît sur la population de nos responsables de club, de nos managers, qui ont besoin aussi d'être coachés, vraiment dans le sens accompagné dans la durée, pour monter en compétences, notamment sur la posture managériale. C'est pour ça qu'on va lancer aussi un programme qui s'appelle Leader in You, qui est axé vraiment sur la posture managériale à tenir vis-à-vis des équipes dans cette action de coaching au quotidien, de feedback et de bien-être et qualité au travail qui est très importante pour nous.
Vous êtes sur LinkedIn ou pas? Parce que souvent, le B2C est moins sur LinkedIn que le B2B.
Je suis sur LinkedIn, à fond.
Les ballons.
À fond les ballons. Et je pense qu'on le sera encore plus là dans les mois à venir.
Merci beaucoup Géraldine Achin d'avoir été avec nous, DRH de Fitness Park.
Merci à vous.
On a parlé un peu des jeunes, on va continuer avec notre intimité suivante.
Merci beaucoup.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Better Together, on va parler d'emploi étudiant. La fermeture des commerces et des restaurants a mis beaucoup de jeunes qui avaient des boulots d'appoint dans une situation très compliquée. 66% des étudiants ont déclaré être dans une situation financière difficile. 55% ne pas trouver de job pour subvenir à leurs besoins. Bonjour Uriel Darmon.
Bonjour.
Vous avez fondé Student Pop qui propose des missions courtes et ponctuelles en fonction des horaires des étudiants. Est-ce qu'il y a encore des offres à pourvoir sur votre appli?
Alors heureusement il reste des offres, mais c'est vrai que quand on a eu le premier confinement, puis le second confinement, puis le moitié de confinement ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'offres qui se sont arrêtées du jour au lendemain. On a beaucoup d'étudiants qui travaillent en restaurant, beaucoup en vente en boutique, et tout ça s'est arrêté. Donc heureusement il reste des jobs étudiants, mais pas pour tout le monde.
Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau au marché du job étudiant?
Alors ce qu'on a apporté, c'est qu'on s'est rendu compte que les étudiants, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient envie de travailler un peu et c'était vraiment nécessaire pour eux, mais qu'il fallait pas que ça empiète sur leur réussite scolaire, et donc il fallait quelque chose de flexible. Et aujourd'hui ce qu'on propose souvent aux étudiants, c'est soit tu as vraiment envie de travailler et tu acceptes un boulot de 20 à 35 heures par semaine dans un restaurant ou dans une boutique de fringues, soit des boulots très très ponctuels. Et avec Student Pop, en fait, on s'inscrit et juste avec un rendez-vous, on a accès à plein de boulots qui toute la semaine peuvent être choisis à la demande. Donc c'est je vais bosser le lundi et mardi dans un magasin de fringues, je vais bosser le samedi soir dans un événement, et ainsi de suite. Et donc les étudiants, en moyenne, ils gagnent entre 300 et 600 euros par mois. Et donc c'est vraiment un complément de revenus en parallèle de ces études.
Mais ils se disent, cette semaine, je sais que vendredi, j'ai rien, j'ai pas de cours, je pourrais travailler toute
Exactement.
La journée. Ils vont sur l'appli et on leur propose...
Exactement, on leur propose...
Quelque chose qui matche avec leurs compétences et leur intérêt ou pas?
Alors, en entretien, ils nous disent, moi, j'ai plutôt envie de faire ci ou ça. Après, c'est des jobs alimentaires, mais c'est fait dans des conditions très sympathiques. C'est plutôt bien payé. On crée une très bonne relation avec le client, où le client s'investit dans la formation aussi des étudiants. Donc tout ça c'est
Vous êtes à deux doigts de me dire que
simple.
Le job étudiant c'est super en fait, alors que pour en avoir fait, c'est pas le souvenir que j'en ai.
Et ben alors je sais pas quel est votre souvenir, mais j'imagine que vous avez rencontré d'autres collègues, que vous avez gagné vos premiers euros, que vous étiez fier.
Mais j'ai aussi pas mal tenu la porte des toilettes pour dire c'est par ici quand j'étais hôtesse d'accueil, et j'ai plié beaucoup de pulls.
Oui, en effet, et je pense que dans ces expériences, quand on parle avec les étudiants, les personnes avec qui ils ont travaillé, comment se sont comportés leurs chefs, comment s'est comporté l'agence d'hôtesse avec laquelle vous avez travaillé est très important, et nous on fait en sorte que tout ça se soit vraiment dans des bonnes conditions pour que le premier pas dans le monde professionnel, même si c'est des petits boulots qui sont pas les plus épanouissants, ça dégoûte pas, et qu'on prend confiance en soi, et qu'en fait on se rend compte qu'on est en étudiant en géographie, mais qu'on est super bon pour convaincre des clients, qu'on sait leur parler, qu'on a la tchat, et tout ça, ça renforce sa confiance en soi, ça donne peut-être envie de faire quelque chose d'autre de sa vie, mais je pense que c'est un premier pas qui est important dans le monde professionnel.
Ça veut dire qu'on peut être un peu restaurateur, un peu serveur, un peu vendeur, et
tout à fait.
Voir ce qui nous plaît.
En fait, c'est ça qu'aiment les étudiants chez Student Pop, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui nous disent on m'a offert un CDI à 25 heures par semaine et en fait je suis revenu parce que moi ce que j'aimais bien chez Student Pop c'est faire des missions un peu diverses et me découvrir et rencontrer des personnes sur chacune de mes missions.
Quelles sont les missions qui ont le plus de succès ?
Alors les missions qui ont le plus de succès, souvent, on fait beaucoup de, je sais pas si vous avez vu fleurir ces distributions de plantes un peu partout dans ouais. Paris éphémères. Là on est au milieu des plantes vertes, on discute avec les vendeurs, je crois que c'est très sympathique. On a beaucoup de personnes qui se découvrent aussi une fibre commerciale en étant des vendeurs terrain. Donc là c'est des missions aux quatre coins de la France. On lance une nouvelle appli. Et on a besoin d'aller voir tous les commerçants, toutes les boulangeries, on va les voir et on les convainc d'utiliser cette nouvelle application mobile. Et on est payé en partie à la com, donc on peut faire beaucoup d'argent. Et souvent, les étudiants, ils aiment bien. Ils le font parfois en binôme et ça fonctionne très bien.
Ils sont motivés, vous qui leur faites passer des entretiens. Vous la trouvez comment, la génération Z ?
Je la trouve géniale.
Vous êtes bien ça. Alors attendez, arrêtons-nous un instant. Donc la génération Z est géniale, facile à gérer, aucun problème.
Je trouve qu'on en dit, ils sont en recherche de sens, ils sont conscients des problèmes de notre planète et des enjeux de société, mais ils ont envie de croquer la vie à pleines dents. Et en ce moment, ils sont très frustrés parce qu'ils sont chez eux et que c'est compliqué. Mais je rencontre tous les jours des étudiants qui nous donne envie de nous battre pour eux et ils ont une joie de vivre et de réussir qui nous galvanise au quotidien.
Il y a des boîtes pour lesquelles ils veulent pas travailler. Je vous dis ça parce qu'on a vu des élèves de Polytechnique dire on n'ira pas bosser chez Total. Est-ce que c'est pareil chez vous, il y a des missions qui ne fonctionnent pas ?
Non, nous on a un feedback à la fin de chacune de nos missions, notamment on a mis ça en place récemment de savoir s'il y avait des abus, des discriminations particulières et tout ça. Je pense que il y a une notion de respect qui est très forte. On est dans des petits boulots, ils se projettent.
Ils vous font des retours.
Oui. Ouais, ils nous font des retours et sur ça, c'est notre rôle de pouvoir faire l'intermédiaire entre les boîtes et les étudiants pour comprendre ce qui se passe et ne pas être tout de suite du côté de l'entreprise, mais au contraire se dire.
Mais c'est-à-dire que vous-même, vous savez qu'il y a des employeurs qui traitent pas bien vos étudiants.
On a très peu de remontées, mais quand on a des remontées, on est intervenu, on a cessé de travailler avec certains boutiques, on a fait remonter parce que souvent, il peut y avoir des problèmes de discrimination mais qui sont au niveau local, et quand on parle au niveau régional, ils disent « Ah ben, merci de m'avoir informé qu'il y a des problèmes au niveau local avec telle ou telle personne. » Donc c'est un dialogue qu'on peut avoir avec les étudiants.
Vous êtes l'interlocuteur des étudiants. C'est vous la partie prenante. Ils n'ont pas de discussion RH ou paiement avec l'employeur
direct.
C'est
nous l'interlocuteur.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ouriel Darmon. Allez voir sur Student Pop les possibles missions que vous pourriez avoir si vous êtes étudiant. On va parler impôts, tout autre sujet.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et voilà un sujet de saison en plein milieu du mois d'avril, les impôts. C'est la saison des impôts et le télétravail est peut-être votre allié si vous passiez aux frais réels et que vous laissiez tomber la déduction forfaitaire. Oui, il va falloir prendre sa calculatrice et réfléchir un peu, mais on va nous aider. Bonjour François-Xavier Combes, vous êtes le fondateur d'Easy Blue. Easy Blue, ça fait quoi ?
Easy Blue, c'est une plateforme d'assurance pour les entrepreneurs. On a inventé un coach qui s'appelle Henri et qui aide les entrepreneurs à comprendre le risque et à s'assurer en quelques clics.
Alors, pourquoi là vous voulez aider les télétravailleurs à mieux faire leur fiche d'impôt ?
Parce que évidemment, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des petits employeurs qu'on accompagne, qui nous posent des questions du quotidien, des questions juridiques et notamment des questions fiscales en disant qu'est-ce que je peux répondre à mon salarié qui me demande ce que je vais faire des frais qui ont été engendrés par le télétravail.
Donc aujourd'hui, le salarié classique, il a une déduction forfaitaire de 10%. Il coche, je ne sais même pas s'il y a une coche à caser, ça va tout seul, il ne fait rien. Et là, c'est 10% forfaitaire.
Voilà, c'est automatique, c'est 10% du revenu annuel professionnel, limité à 22 252 euros, voilà.
Ça, aujourd'hui,
c'est le cas général, ça suffit.
Mais si vous avez engendré des frais pour votre activité de télétravail qui sont importants, ça peut être intéressant de tout changer.
Exactement, et là, il va falloir sortir sa calculette. C'est un exercice individuel, donc chacun va devoir scanner les frais qui ont été occasionnés par le télétravail, et ça va assez loin. Alors, la clé de calcul, là, il faut bien comprendre. Vous prenez la surface de votre appartement et votre logement et vous allez appliquer un coefficient par rapport à la pièce qui est dédiée au télétravail. Si vous avez transformé une chambre d'amis, si vous avez un bureau qui est dédié à ça, vous avez une pièce qui est dédiée au télétravail, hein, cette pièce, vous allez la rapporter à la surface globale et ça va vous donner un pourcentage de votre habitation et vous allez passer toutes vos dépenses fixes, vous allez appliquer ce coefficient.
Donc pour les Parisiens, c'est quand même intéressant parce qu'a priori, leur 10 mètres carrés, c'est une bonne part de leur logement.
Voilà, et donc du coup, vous allez pouvoir vous dire, bah, j'applique 20% de charges sur mon loyer, sur mon électricité, sur Internet, sur les charges locatives, etc., l'assurance habitation. Ça va vous faire déjà une première enveloppe déductible. Ouais. Et puis après, vous avez certainement investi un fauteuil ergonomique, un bureau, certains de l'informatique. Tous ces éléments vous appartiennent, mais l'administration fiscale accepte que vous en déduisiez sur cette année 50%. Donc vous allez faire votre addition et vous allez pouvoir comparer est-ce que 10% de mon revenu annuel professionnel ou les frais réels sont plus intéressants cette année.
On peut changer l'année prochaine, c'est pas définitif.
Exactement, c'est une option que vous prenez chaque année. Donc c'est un calcul qui sera à refaire chaque année, puisqu'effectivement, on peut imaginer que pour un certain nombre d'employés, de salariés, bah, le télétravail va continuer.
Vous allez jusqu'où? Vous calculez votre café, vos habits
Alors, jusqu'où on va? On peut aller jusqu'au consommable nécessaire à l'activité professionnelle, ouais. Les stylos, le papier, l'encre, je l'ai dit, les investissements. Voilà, ces grands postes et toutes les charges fixes, donc en fait ça fait beaucoup, hein. Ça peut faire beaucoup. Encore une fois, c'est un cas, c'est au cas par cas, donc vraiment il faut prendre le temps. Cette année, ça peut valoir le coup de prendre sa calculette.
Si vous êtes intéressé au sujet, c'est parce que les entrepreneurs que vous coachez vous font remonter cette problématique. C'est quoi ce qui remonte comme autre problématique?
Alors, les autres problématiques, particulièrement pour les indépendants, c'est justement le prisme un peu déformant du télétravail, notamment pour l'assurance. Je vous explique, c'est très simple. Un indépendant qui travaille chez lui, à titre professionnel, il n'est pas un télétravailleur. Or, il pense que son assurance habitation le couvre à titre professionnel. 95% des assureurs couvrent des particuliers dont leur habitation ne couvre pas de professionnels. Donc nous, on a monté un petit guide gratuit.
Mais ça, c'est dangereux?
Bah oui, c'est dangereux parce que... moi, mon cas, j'ai mon bureau chez moi dans mon appartement. C'est le siège de ma boîte. Si je mets le feu à mon appartement et que je n'ai pas prévenu mon assureur, bah clairement, je ne suis pas garanti.
Donc,
donc là, il y a une démarche.
Alors que vous le pensez.
Que justement, et puis avec tout ce qu'on entend sur le télétravail, encore une fois, je pense que de bonne foi, beaucoup pensent qu'ils sont tranquilles. Donc là, on fait vraiment une campagne d'information auprès de nos clients en disant, attention, interrogez votre assureur habitation, obtenez un écrit pour leur décrire cette situation. Et si vous n'êtes pas assuré, nous, on a des solutions aussi chez Zibou. Évidemment, c'est notre job. Et notre premier job, c'est d'abord de vous prévenir qu'il y a un risque.
Donc ça, c'est pour l'ensemble des indépendants.
Exactement, indépendants. Et c'est le cas d'énormément d'entrepreneurs qui se sont lancés en 2020. Évidemment, vous avez pas été loué un bureau, vous avez commencé votre activité chez vous. Et donc, beaucoup se reconnaîtront dans cette situation.
Vous faites du risque fiscal, du risque financier. Est-ce que vous allez vous mettre aux risques psychosociaux?
Pas encore, mais certainement, à partir du moment où on va commencer à adresser notamment de la mutuelle santé pour nos indépendants et pour leurs salariés, bien évidemment, on attaquera aussi tout ce qui va être prévention, santé au travail, notamment santé psychologique.
Vous voyez les dirigeants d'entreprise évoluer vers ce thème, commencer à dire il faut que je m'intéresse vraiment à la santé de mes salariés, je ne sais pas comment faire, ce n'est pas mon boulot de départ.
Complètement, et notamment avec justement la problématique du télétravail, des gens à distance, avec des situations personnelles de chaque salarié qui sont différentes, qui pèsent de plus en plus. Donc il y a des problématiques de management, et il y a aussi des problématiques de comment j'évalue ce risque, comment je me mets en alerte et comment je le traite finalement. Et donc ça va induire beaucoup de choses dans la politique de l'entreprise. Même des toutes petites entreprises, parce que ce qui est en jeu, c'est la perte d'un salarié, parce que burn-out, etc.
Vous rémunérez comment? C'est au forfait? C'est au conseil?
Alors non, tous les conseils périphériques, en fait, on les donne vraiment. Je vous dis, on a fait un guide gratuit, on essaie de donner beaucoup de choses.
Oui, mais vous n'êtes pas une ONG.
Mais pas du tout, et justement, nous avons un statut de courtier en assurance, et en fait, on mise sur le fait que ces gens-là vont devenir nos clients, et ensuite, on a une commission sur les primes d'assurance.
Quand vous les suivez après dans la longueur.
Dans le temps, c'est-à-dire quand ils deviennent clients d'Easy Blue.
Voilà, allez voir de près vos petits calculs, votre déclaration d'impôt, sortez votre calculette et vérifiez que c'est plus intéressant pour vous d'être soit aux frais réels, soit aux frais forfaitaires. C'est déduction forfaitaire ou frais réels, c'est ça. Merci beaucoup François-Xavier Combes d'être venu nous voir, fondateur d'Easy Blue. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve la semaine prochaine sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.